Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite passer un très bon sabbat. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les propriétés ont des bornes. C'est une pierre ou une marque qui sert à indiquer la limite de deux propriétés qui sont contiguës. Et même dans le temps, on avait des bornes. Et même à l'époque de la Bible, on parlait de bornes. Deutéronome chapitre 19 et le verset 14. Les hommes, donc, dans les lois civiles, peuvent limiter, bien sûr, les propriétés. Mais dans Deutéronome chapitre, pour indiquer à quel point c'était déjà à l'époque important, nous voyons ici dans Deutéronome chapitre 19 et le verset 14, je lis, Deutéronome chapitre 19, verset 14, « Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. » Évidemment, c'est un vol, c'est prendre de son voisin. « Posé par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. » Et c'est d'autant plus important que quand vous regardez Deutéronome chapitre 27 et Deutéronome chapitre 28, vous vous rappelez le fameux chapitre où il y avait les malédictions et les bénédictions qui étaient données. D'une part, les malédictions sur le mont Ebal et les bénédictions sur le mont Garizim. On trouve, je m'y rapporte pas, dans Deutéronome chapitre 27 verset 17, il y avait 12 malédictions. Il y avait 12 malédictions, il y avait une partie des tribus qui devaient prononcer les malédictions, les autres les bénédictions. Mais dans Deutéronome chapitre 27, verset 17, nous lisons ceci, « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. » Donc c'était important parce qu'il y avait 12 malédictions et cette malédiction en faisait partie. Il fallait donc limiter déjà à l'époque les propriétés. Il fallait limiter. Et quand on réfléchit un peu plus, on constate que dans notre monde actuel, tout est limité. Depuis quelques années maintenant, les hommes se sont rendus compte que le pétrole aussi est limité. Et l'homme commence de ce fait peut-être à vouloir exploiter d'autres planètes. Actes chapitre 17, verset 26. Dieu aussi a imposé des limites. Dans Actes chapitre, vous voyez un parallèle du Deutéronome chapitre 32, mais ici dans Actes chapitre 17 et le 26, nous lisons ceci. Actes 17, verset 26. « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé, donc c'est Dieu, ayant déterminé la durée des temps, mais un certain laps de temps que Dieu a déterminé, et les bornes de leur demeure, voilà encore le mot borne que nous retrouvons, les bornes de leur demeure, c'est Dieu qui impose les limites, qui donne des limites. Et nous constatons facilement, en tant qu'être humain, qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. On ne peut pas faire n'importe quoi en tant qu'être humain. Vous avez entendu parler de hypothermie. Et si nous plongeons dans une eau, par exemple, à 5 degrés, habituellement, une personne ne peut pas survivre plus que 15 minutes. Enfin, environ 15 minutes dans de l'eau à 5 degrés. Tout est limité et de ce fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. La Terre n'est pas exponentielle. La Terre n'est pas exponentielle. On ne peut pas ajouter croissance sur croissance. Et chaque année, dans notre monde actuel, nous utilisons plus de ressources que ce que la Terre peut produire. Vous avez peut-être entendu parler du jour de dépassement. Du jour de dépassement. Et le jour de dépassement arrive un peu plus tôt chaque année. En 2018, c'est arrivé le 1er août. Le 1er août 2018, et je cite ici un article à ce sujet, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la nature peut renouveler un an. Pour renouveler les choses, Mais si on consomme plus que ce que la Terre peut renouveler, on est endetté de ce point de vue-là. Et vivra ensuite à crédit, voilà, pendant 5 mois, selon l'ONG Global Footprint Network, qui souligne que cette date survient de plus en plus tôt. La première route est la date à laquelle nous aurons utilisé plus d'arbres, d'eau, de sol fertile et de poissons que ce que la Terre peut nous fournir en un an pour nous alimenter, nous loger et nous déplacer et émis plus de carbone que ce que les océans et les forêts peuvent absorber. Et l'homme, je pense, pendant de nombreuses années, ne s'est pas rendu compte à quel point notre Terre est limitée. Il nous faudrait aujourd'hui l'équivalent de 1,7 Terre pour subvenir à nos besoins, souligne WWF dans un communiqué. Cette date est la plus précoce jamais enregistrée depuis le lancement du jour de dépassement au début des années 1970, 1970, où la date retenue était celle du 29 décembre. En 2017, il était advenu le 2 août. Le mouvement s'est accéléré à cause de la surconsommation et du gaspillage. On met à mal la capacité de la planète à se régénérer. Et bien sûr, nous avons des responsabilités différentes parce que dans les pays riches, on consomme beaucoup, comme le Qatar, le Luxembourg, on a une empreinte écologique extrêmement forte. Il y a d'autres pays comme le Vietnam. Le Vietnam, par exemple, la date retenue pour le Vietnam, c'est le 21 décembre. Et ensuite, quelque chose qui est intéressant à ce sujet. Bon, d'abord, ce mercredi 2 août, nous voilà déjà arrivés à la jour du dépassement de la Terre. Autrement dit, pour les 5 mois de l'année qui restent, l'humanité va surexploiter les ressources disponibles dans la nature. Nous les consommons donc plus vite qu'elles ont le temps de se régénérer en une année. Et voilà la phrase que je trouve très, très intéressante. Pour penser qu'une croissance illimitée, parce que la Terre est limitée, nous sommes limités, tout est limité dans nos terres, pour penser qu'une croissance illimitée est possible dans un monde limité, il faut être soit fou, soit économiste, avait déclaré l'économiste Kenneth Boulding. Donc, un économiste qui dit ça à propos de cette situation. En ce début du 21e siècle, les terriens vivent largement au-dessous de leurs moyens écologiques. Voilà. Je trouvais ça très intéressant parce que ça montre à quel point nous dépassons les limites, c'est le cas de le dire. Nous dépassons les limites et nous consommons d'une certaine façon cette terre que Dieu nous a donnée. Nos ressources ont des limites. Et ça va à l'encontre de l'homme parce que l'homme, avec la nature humaine, prend. L'homme est habitué à prendre. Et l'homme ne veut pas être restreint, si vous voulez, souvent. Ça affecte notre façon de penser, notre façon, notre mode de vie. Parce qu'il y a demain, il y a le demain, il y a l'après-demain. Mais l'homme, souvent, ne pense pas à demain et à l'après-demain, il pense au moment présent. Et il ne veut pas voir l'avenir. Dieu a créé ainsi les choses, il y a ce qu'on peut appeler des marqueurs du temps. Des marqueurs du temps. Nous connaissons le plan de Dieu. On a chanté, on a parlé à ce sujet-là tout à l'heure, le deuxième cantique. Et Dieu veut conduire, dans Hébreux chapitre 2, verset 10, Dieu veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Et dans ce contexte, Dieu a quand même imposé des marqueurs de temps. Parce qu'avant la création de l'homme, qu'est-ce que nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 14? Que Dieu a fait les luminaires dans l'étendue du ciel, des signes pour marquer quoi? Les époques, les jours et les années. Ce sont des marqueurs des temps. Dieu veut emmener à la gloire beaucoup de fils, mais Dieu nous a donné aussi des marqueurs. Et il faut que nous soyons conscients, très conscients du passage de temps. C'est marqué dans Ésaïe 57 et le verset 15. Ésaïe 57, verset 15, je m'y rapporte pas et je vais retirer de ce verset l'expression d'après le Darby, en parlant de Dieu, Dieu qui habite l'éternité. Moi, c'est une phrase qui est magnifique. Dieu habite l'éternité. Voilà que nous avons donc l'éternité. Nous avons le plan de Dieu où Dieu veut que nous puissions par la suite vivre pendant l'éternité. Et voilà que Dieu a créé des marqueurs. Et nous habitons dans le temps, entre guillemets, nous habitons dans le temps pour que nous puissions voir la nécessité de l'éternité. Ça, c'est le but de Dieu. Nous, surtout européens, parce que les Asiatiques, c'est un peu différent jusqu'à un certain point, la conception, c'est cyclique de la vie. Nous, c'est linéaire. Il y a un commencement, il y a une fin. Et le temps linéaire nous conduit à vouloir faire toujours plus, toujours plus vite, qui pousse notre productivité aux limites et nous perdons de vue parfois le sens de la vie. J'arrive maintenant au sujet de ce sermon, des bornes à notre vie, qu'il y a des bornes à notre vie, tout simplement. La dernière fois que j'étais ici sur Ferreux, je vous ai cité psaume 90, psaume 90. Je ne devais pas dire 90 parce que ce sermon va partout, donc il y a des gens qui vont être perdus. Psaume 90. Psaume 90 contraste la fragilité de l'homme avec l'éternité de Dieu. Contraste la fragilité de l'homme avec l'éternité de Dieu, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, Dieu a toujours existé, il existera toujours. Et à un moment donné, il y a la création qui est physique, qui est dans le temps, justement. Et on voit ici donc la différence entre les deux, verset 3, cette fragilité de l'homme. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, tu dis, fils de l'homme, retournez. Verset, la vie passe vite, et on se retourne en arrière, on demande où est-ce que c'est passé, cette vie. Verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Il y a beaucoup de souffrances physiques, beaucoup de souffrances morales. Il y a beaucoup de peine et de misère dans cette vie. Et comme j'ai dit, on a l'impression avec les années que les années s'accélèrent, c'est pas vrai. Mais on a peut-être cette impression. Verset 12. Enseigne-nous du fait que, justement, le temps est limité, que notre temps personnel est limité. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà le conseil de Dieu, qu'il faut être davantage conscient du temps qui passe. Nous connaissons les prophéties, nous connaissons l'écriture sur le muraille et à nous, donc, d'appliquer notre cœur à la sagesse. Puisque tout est limité, puisque le temps qui nous est octroyé est limité, par voie des conséquences, il faut utiliser sagement ce temps que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne encore. C'est bien marqué au début de verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Parce que c'est pas forcément, c'est souvent pas le cas, c'est pas naturel. Enseigne-nous à bien compter nos jours. L'homme vit souvent dans les médias. L'homme vit souvent avec la gratification de lui-même. Et donc, il faut être conscient de cette dimension supplémentaire, l'éternité. Il faut être conscient du plan de Dieu, parce que nous n'avons qu'un temps limité. Et il y a une incertitude, inévitablement, par la force des choses, il y a une incertitude dans la vie, que ce soit de façon générale ou que ce soit personnel. Nous n'avons aucune certitude sur le nombre de nos jours, de notre vie. Vous vous rappelez Belshazzar? Belshazzar, c'est le dernier roi de Babylone. Quand Daniel a été appelé pour interpréter, vous avez, vous rappelez, les doigts d'une main d'homme ont écrit sur la muraille. Et Belshazzar faisait une fête incroyable, ce qu'on peut appeler une fête somptueuse. Et ensuite, les doigts d'une main est venu écrire sur la chaux d'un muraille. Et Belshazzar, qui pensait que sa vie allait continuer, voilà que Dieu décide autrement. Et Dieu, Daniel dit à un moment donné, je vous donne la référence, Daniel chapitre 5 et le verset 23, en parlant, puisqu'il est venu pour interpréter justement l'écriture sur la muraille, et Daniel a dit, en parlant de Dieu, qui a dans sa main, il s'adressait à Belshazzar, et il disait à propos de Dieu, qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Il a dans sa main ton souffle et toute ta voix. Notre vie, nos vies sont dans les mains de Dieu. Et nous avons un temps limité, mais nous ne savons pas combien d'années encore qu'il nous reste encore. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. À côté de ça, il y a une écriture qui est intéressante dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Mettre dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Difficile pour nous, peut-être impossible pour nous, d'essayer de s'imaginer sans être là. La pensée de l'éternité. Et donc, nous travaillons avec ces deux dimensions, ces deux aspects, le fait que nos vies sont limitées et l'éternité. Il faut que ce soit plus que le simple niveau économique qui guide nos vies. Il faut que nous soyons guidés par des principes bibliques. Donc, cette incertitude dans la vie est très présente dans Jacques chapitre 4 et le verset 13. Jacques chapitre 4 et le verset 13. Jacques parlait de cette vie éphémère dans Jacques chapitre 4 et le verset 13. Il y avait ici un reproche parce que les gens, justement, n'étaient pas assez conscients du fait que la vie est à certains points de vue limitée, donc, ici. Verset 13, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Les gens qui se vantaient, donc, de demain, ce qu'ils allaient faire demain. Et encore à l'époque, la vie était plus courte que maintenant. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Et c'est vrai pour chacun d'entre vous. Nous. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il peut y avoir des changements de situation personnelle, des événements inattendus qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut apprécier le temps qui passe. Le temps qui passe, apprécier le temps en famille, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous apporte. Et ici, le commentaire Clark dit à propos de ce verset, que nous trafiquerons, dans le verset 13, nous trafiquerons et nous gagnerons. C'était la coutume à cette époque-là. Ils allaient de ville en ville. Ils emmenaient le bien sur les dos des chameaux. Et les Juifs, par exemple, faisaient la commerce à Tyr, à Sidon, Césarée, Crète, Éphèse, Philippe, Thessalonique, Corinthe, Rome, etc. Et c'était ce genre de marchandises itinérants auquel, c'est ce que Adam Clark dit, que c'était à quoi Jacques fait allusion. Ils étaient intéressés par le fait de gagner. Mais la vie est une vapeur très éphémère. Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, puisque notre vie est dans les mains de Dieu, si Dieu le veut. Et ça en soi, c'est un énorme défi pour un chrétien, si Dieu le veut, de dire et de prier et de mettre en pratique, de faire ce que Dieu veut que nous fassions dans notre vie personnelle, c'est un grand défi. C'est un grand défi et ça rejoint bien sûr que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un plan personnel. Si nous nous considérons comme un outil dans les mains de Dieu, ça va de pair avec le verset 15. Pas de dire nous ferons ceci ou cela. Verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Vous vous glorifiez, puis il y a une suffisance. Il y a un mot, peut-être, qui revient souvent maintenant. C'est le mot indépendant. C'est un mot à la mode, même si c'est peut-être dit d'autre façon, que nous venons, que les êtres humains, de plus en plus, veulent mener leur vie comme ils entendent, comme ils veulent. J'aime beaucoup le Shoraki dans le verset 16 qui dit ceci. Mais maintenant, vous êtes fiers avec vos fanfaronnades. Vous êtes fiers avec vos fanfaronnades. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Verset 17. Il y a un donc ici. Avec tout ce que nous venons de lire, tout ce qui précède, celui, ça c'est dans le contexte, celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas commet un péché. Et nous sommes évidemment fautifs si nous faisons uniquement à notre tête, sans demander que Dieu nous aide, que Dieu nous guide. Dans Luc chapitre 12, verset 13, mais comme je dis, c'est un grand défi. Luc chapitre 12, verset 13. Le Christ a dû lutter vraiment à la fin de sa vie pour réaliser le plan de Dieu, pour mettre en pratique ce qu'il avait déterminé auparavant, c'est ce qu'il a dit à son père, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Luc chapitre 12, verset 13. Ici, c'est une parabole que le Christ donne par la suite. Je trouve ça, la parabole que le Christ donne est formidable. Bien sûr, c'est la crise qu'il a donnée, mais il n'a pas choisi un pauvre. Il n'a pas choisi un pauvre, il a choisi un riche. Et un riche et un pauvre, ils ont le même sort. Et la richesse peut constituer un faux refuge. On peut s'appuyer sur la richesse. Ça peut être une fausse sécurité. Mais Christ ici va plus loin que le physique. Verset 13. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Verset 14. Jésus lui répondit au homme, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Évidemment, le Christ va plus loin que le physique. Il revient à l'essentiel, il revient au spirituel. Et il élève par voie des conséquences la discussion. On peut parler de la sagesse d'Onneau dans Jacques chapitre 3. Verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et donc, il veut qu'ils puissent orienter correctement leur vie. On parle également dans une traduction, le fait de vouloir de plus en plus, convoiter de plus en plus. Verset 16, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Il voyait son avenir sans limite. C'était très évident. Il ne voyait pas dans l'immédiat des bornes. Il raisonnait sans Dieu. Il raisonnait visiblement sans Dieu. Il raisonnait en lui-même. Il dialoguait avec lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'empâterai de plus grandes, j'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Beaucoup de projets. Ça engendre, les richesses peuvent engendre beaucoup de projets, effectivement, parce qu'on est toujours animé par la physique. Si la physique est là en abondance, on peut avoir beaucoup de projets. Verset 19, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. On voit trois possibilités, trois dangers, si vous voulez, trois facilités avec la richesse. Premièrement, la séduction des richesses. C'est un leurre. C'est un leurre, on dit en anglais, got it made, c'est-à-dire que les choses sont dans le sac. On est assuré. Deuxièmement, on voit ici, dans le verset 19, la paresse peut arriver. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Il peut y avoir une deuxième possibilité, la paresse. Et la troisième chose qui est très évidente aussi dans le verset 19, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est accentué. Il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup de je dans le verset 19. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Son confort, sa dépense, son avenir et sa vie. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il est possible, donc, d'après la Bible, d'être riche et d'être insensé. D'avoir beaucoup de biens et d'être insensé. Et l'âge, bien sûr, pour Dieu, ce n'est pas la même chose que pour nous, parce que, comme j'ai dit, notre vie est dans les mains de Dieu, et Dieu peut décider de notre vie aussi. Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Et cet homme qui était riche, qui avait des terres qui ont beaucoup rapporté, il était même pas philanthrope. Il était même pas philanthrope. Il aurait pu donner aux autres, mais il était même pas philanthrope. Il était encore moins riche pour Dieu. Les vraies richesses ne sont pas physiques. Les vraies richesses, entre autres, ce sont les relations que nous établissons, que nous bâtissons, que nous construisons, et en commençant avec nos relations avec Dieu. Les vraies richesses dans la vie, ce sont des accomplissements, entre autres, que nous pouvons effectuer, et les changements que nous pouvons effectuer dans nos vies. Philippiens chapitre 1, verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 21. C'est différent, tout ce que nous venons de lire, là, dans Luc chapitre 12, c'est bien différent de ce que nous lisons dans Philippiens chapitre 1, verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 21, où l'apôtre Paul dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quand nous allons à la fête des tabernacles, il y a plusieurs leçons que nous apprenons chaque fois qu'on y va. Souvent, la fête des tabernacles, c'est un déplacement significatif. Tandis que les fêtes au cours de l'année sont plutôt, je parle dans l'ensemble, sont plutôt des fêtes locales. Et la fête des tabernacles est pour nous un pèlerinage. Du reste, nous voyageons pour aller à la fête, c'est bel et bien un pèlerinage. Vous vous rappelez peut-être le psaume de degrés. Il y a un cheminement à partir de psaume 120, il y a 14 ou 15 psaumes qui parlent de ce psaume de degrés, quand les gens, à l'époque, allaient à la fête. Et donc, nous voyageons. Et c'est bien marqué du Deutéronome chapitre 14, le chemin sera-t-il trop long? Donc, c'est un chemin. C'est un pèlerinage. Et Jacob a bien compris le sens de ce pèlerinage dans sa vie, parce que c'est le pèlerinage aussi dans la vie pour nous. Et il a dit à Pharaon que les jours de mon pèlerinage, ou les jours des années de mon pèlerinage, sont de 130 ans. Et il appelait ça son pèlerinage. Il était conscient que c'était un pèlerinage. Et il a dit que ça n'a pas atteint les jours, les années de la vie de mes pères. Il n'avait que 130 ans à l'époque. Son grand-père a vécu jusqu'à 175 et son père 180. Là, évidemment, il était relativement jeune à côté. Il a vécu jusqu'à 117 ans après, il a vécu jusqu'à 147 ans. Mais sa vie, et il a compris que sa vie était un pèlerinage. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Il a compris à quel point la vie avait des bornes et que ce n'était qu'un pèlerinage parce qu'il y avait autre chose après. 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Pierre chapitre 1, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. En anglais, c'est traduit, sauf erreur, par pour une saison. Pour une saison, pour un laps de temps défini, mais pas pour l'éternité. Même les épreuves les plus difficiles, même les épreuves les plus difficiles ont une fin. Nos luttes ont une fin. Nos combats, nos souffrances ont inévitablement une fin. On va rester avec 1 Pierre chapitre 1, si vous voulez bien. Parce qu'il y a le pèlerinage, c'est notre vie en tant que chrétien dans cette vie, comme je dis, c'est démontré aussi par le fait des tabernacles, par le fait d'y aller. Et nous arrivons dans cette vie physique à la fin de notre pèlerinage. 1 Pierre chapitre 1, donc, et le verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Tout est relatif. On compare un pèlerinage à côté de l'éternité. On voit la perspective de Dieu. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Nous avons le début de notre pèlerinage. On comprend la vérité, on commence à obéir à la vérité, on commence le chemin de notre pèlerinage. Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, parce que c'est éternel, parce que c'est l'avenir. Ni flétrir, laquelle vous est réservée dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et après, ce sera plus un pèlerinage parce que nous serions arrivés à la fin de notre pèlerinage. Et on peut contraster donc ces deux époques, ces deux périodes dans notre vie si nous sommes dans le royaume de Dieu. Verset 7. Afin que, verset 6, donc on va relire, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps, j'allais dire un peu de temps seulement, tout est relatif, pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, il y a un but, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, à la fin de notre pèlerinage, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et nous savons que les saints vont être changés à ce moment-là. Le commencement de notre pèlerinage, c'est le fait de sortir du monde. La fin, c'est la joie d'entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, au cours de ce pèlerinage, il y a des étapes. Les étapes, par exemple, surtout le baptême. Et c'est de nouveau Paul qui a dit, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. La fête des tabernacles nous enseigne donc le concept d'un pèlerinage, et la fête des tabernacles nous enseigne également que nous vivons, que ce que nous avons maintenant, c'est temporaire. Nous vivons dans des demeures temporaires. Ça souligne le temporaire. Et peut-être nous sommes, enfin je pense que nous sommes contents quand nous rentrons de la fête de retrouver nos affaires, les choses avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, nos affaires habituelles. Et en attendant à la fête, nous avons des choses temporaires. Et ça ne peut être que temporaire. Hébreux chapitre 11 et le verset 9. C'est fait pour être temporaire. Hébreux chapitre 11, verset 9, et Abraham, Isaac et Jacob étaient certainement aidés en cela par le fait qu'ils habitaient dans des demeures temporaires. Monsieur Micker a peut-être mieux compris le sens de demeure temporaire que nous, parce qu'il a déménagé, c'était combien, 30 fois, 35 fois, 24 fois. Mais la plupart d'entre nous, c'est pas le cas. Hébreux chapitre 11, verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, Abraham, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, des co-héritiers de la même promesse. Ils habitaient sous des tentes. Un temple, par la force des choses, bon, il y a des peuples qui habitent tout le temps dans les tentes, mais sinon, c'est temporaire. Verset 10, car il attendait la cité qui est le solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il voyait plus loin. Mais tous les jours, pendant leur vie, ils pouvaient se rappeler que tout ce que ça signifie, des demeures temporaires. Donc, d'être conscient qu'il y a des bornes. Et quand on est conscient qu'il y a des bornes, on commence à avoir davantage la perspective de Dieu. Dans Daniel chapitre 12, Daniel est un homme de Dieu, un homme très juste, appelé bien-aimé. Et à un moment donné, il y a apparemment l'homme vêtu de lin qui apparaît à Daniel et qui lui donne un certain nombre de, qui lui donne des renseignements juste à la fin de Daniel 12. Et je trouve que c'est très, très encourageant ce qu'il dit à Daniel parce que c'est la perspective de Dieu. C'est une perspective qui est apaisant, qui est rassurant pour un homme de Dieu. Dans Daniel chapitre 12, verset 13. Et toi, il était âgé à ce moment-là. Et toi, marche vers ta fin. La fin de ton pèlerinage. Marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Le mot, ici en hébreu, tu te reposeras, c'est le même mot employé pour le sabbat, quand il s'agit de se reposer pour le sabbat. Donc, c'est bel et bien un repos. Et on parle souvent de vie et puis la mort. Mais d'un certain point de vue, d'après ce que c'est des coutures, il y a la vie, il y a le repos et il y a la vie. Et c'est la perspective de Dieu parce que Dieu, bien sûr, travaille avec l'éternité. Il y a la vie, on parle de la mort après la, ou la vie après la mort, mais c'est la vie après la vie. Il y a la vie après la vie. Et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le Christ a dit à propos de Lazare, Lazare, notre ami, dort. De Pierre, chapitre 3, verset 10. Comme je dis, je trouve le passage dans Daniel très encourageant parce que c'est la perspective de Dieu, c'est apaisant, c'est rassurant. De Pierre, chapitre 3, verset 10. Le contexte de 2 Pierre chapitre 3, c'est intéressant parce que le Christ avait dit à Pierre ou appelé dans Jean par quelle mort il allait mourir. Donc ici, c'est écrit à la fin de sa vie, 2 Pierre. Il était donc très conscient de sa propre mort, très conscient pour avoir des conséquences que tout était éphémère, temporaire et transitoire, qu'il était là que pour un temps. Ma femme et moi, nous connaissons quelqu'un qui, bon, n'a pas la connaissance de la vérité que nous avons, mais cette personne a une très grande foi. Et cette personne, qui est maintenant assez âgée, a dit une phrase récemment, enfin, relativement récemment, il dit, maintenant, je me prépare pour l'éternité. J'ai trouvé ça très belle comme phrase, avec la connaissance qu'elle avait. Elle a pu le dire, et c'est sincère parce qu'elle a une foi forte, une foi très forte. Elle n'a pas la connaissance que nous avons, mais elle a beaucoup de foi. Verset 10. Et nous aussi, on se prépare pour l'éternité. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. À l'avenir, après le millénium, après la période de 100 ans, verset 11, « Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attendant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Mais c'est beaucoup plus que le verset 12, c'est beaucoup plus qu'un verset passif. Le synodal dit ceci, « En attendant et pour hâter la venue du jour de Dieu. » En attendant et pour hâter la venue du jour de Dieu. Nous avons donc tous un rôle à jouer pour hâter la venue du jour de Dieu. Supportez-le, bien sûr. Être proche de Dieu, être une lumière à notre niveau. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, et c'est Pierre qui dit, sachant qu'il allait mourir, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où la justice habitera. Et c'est marqué dans Apocalypse 21 qu'il n'entrera que ceux, dans le Nouveau Jérusalem, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous avons donc une responsabilité. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Puisque le physique est limité, puisque notre vie a une durée limitée, on devait être concerné par l'au-delà. Il y a une expression en anglais, too many irons in the fire, c'est qu'on peut traduire par trop de fer au feu. Vous savez, apparemment, ça remonte à l'expression du XVIIe siècle où il y avait les forgerons, savoir avec des forgerons, qui mettaient les fers entre autres, dans le feu. Et si le forgeron ne mettait pas assez de fer dans le feu à un moment donné pour chauffer, pour pouvoir les former, les modeler, les façonner, s'il ne mettait pas assez à la fois, il était au chômage, façon de parler. Mais s'il mettait trop de fer dans le feu à la fois, il n'avait pas le temps de façonner les choses qu'il voulait façonner. Et le résultat, c'est qu'il y avait des fers, par exemple, qui restaient dans le feu, et qui, parce que ça change de couleur, les fers, hein, dans le feu. Ça va pas, je crois que c'est jaune, orange, et à un moment donné, si c'est trop chaud, ça devient carrément blanc. Et là, c'est trop chaud. Si c'est plus de 1000 degrés, plus de 1000 degrés centigrades, 2000 Fahrenheit, ça peut, je crois que se désagréger. Donc, il fallait qu'il prenne les fers au bon moment, mais il fallait pas qu'il y ait trop de choses dans le feu à un moment donné, parce que sinon, il n'arrivait pas à suivre. Et il y avait de la perte. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est facile d'avoir trop de choses à faire. Et M. Armstrong, des années en arrière, parlait de simplifier nos vies. Et c'est important parce que nous vivons une époque de distraction comme jamais auparavant. Et c'est plus facile de voir et de garder nos priorités sans se laisser distraire par Satan, peut-être quand nous avons un peu moins de fer dans le feu. On peut mieux maîtriser notre temps. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On peut penser que sacrifice s'appelle, ça s'applique uniquement à l'argent, mais ici, quand on regarde bien le contexte, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est donc nous-mêmes comme un sacrifice vivant, et ça dépend par voie de conséquence de ce que nous faisons avec notre corps, avec le temps dont nous disposons. Et notre temps est extrêmement important pour Dieu. Il y a un livre qui existe, je crois que c'est un livre américain, écrit par un certain Johanna Wiva. Je vous traduis le titre, c'est « Ayant un cœur d'une Marie dans un monde de Marthe ». Ayant un cœur d'une Marie dans un monde de Marthe. Vous connaissez l'histoire. Où le Christ a dit, comme un gentil rapproche, je pense qu'on peut dire, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses ». Luc chapitre 10, verset 38. Et elle avait trop de fer dans le feu, Marthe. Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Elle avait trop de choses à faire à ce moment-là. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples et entrait dans un village, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Bon, c'était altruiste, c'était pour faire du bien. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur à écouter sa parole. Évidemment, Marthe, qui était affairée, n'appréciait pas trop. Verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Dis-lui donc de m'aider. Le Darby dit ceci, dans le verset 41. Bon, d'abord, on va lire dans le second. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et dans le Darby, c'est marqué, « Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. » Et c'est vrai que si on a plus de faire, on risque de se tourmenter davantage. Verset 42. « Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Notre temps est limité, on ne peut pas tout faire. Et donc, il faut choisir. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et ça rejoint Matthieu chapitre 6, verset 33. L'intention de Marie, de Marthe, excusez-moi, l'intention de Marie était peut-être altruiste, mais c'était pas ce qu'il y avait de plus important. Et nous pouvons facilement inverser nos priorités. Il y a des choses qui dévorent notre temps. Notre temps est extrêmement précieux. Et on peut être trop occupé pour des choses de base. On peut se poser la question, honnêtement, qu'est-ce qui dévore mon temps, mon énergie? Et à la maison, j'ai un grand jardin. Et je sais qu'il faut que je fasse attention parce que je sais que ce jardin peut dévorer mon temps. C'est très facile. Ésaïe chapitre 46, verset 9. Il y a un domaine où il n'y a pas de borne, où il n'y a pas de limite. Et ça se trouve dans Ésaïe chapitre 46, verset 9. Ni dans notre vie, ni dans le temps. Ésaïe 46, verset 9. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Là, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de limite, c'est la volonté de Dieu. Le Christ a toujours fait la volonté de son Père. Il n'y avait pas de borne, il n'y avait pas de limite. Psaume 119, 96. Psaume 119, 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Il y a un contraste qui est fait ici. Des bornes d'un côté, tes commandements n'ont point de limite. Dans le rabbinat, c'est marqué, j'ai vu des limites. ta loi est infiniment vaste. C'est vrai que les choses d'origine humaine ont des limites et ont une fin. Mais même que ce soit noble et excellent, que ce soit les langues, les sciences, les arts, si c'est l'homme qui est à l'origine, ils ont des limites. Tandis que la loi de Dieu transcende les limites de la création. Et la loi de Dieu va aller jusque dans l'éternité. Il y aura toujours la loi de Dieu. Il y aura toujours l'amour, le fait de pratiquer l'amour. L'homme est limité en tout. L'homme est limité par le bien qu'il peut faire, même s'il peut faire beaucoup de bien. Mais l'homme est limité physiquement et mentalement et par la durée de sa vie. Dans Jacques, nous lisons que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur des champs. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flattera dans ses entreprises. Ça, c'est Jacques, chapitre 1, et le verset 10, et le verset 11. Jacques, chapitre 1, le verset 10, et le verset 11. Même à l'époque des Romains, ils trouvaient que le temps passait trop vite. Tempus fugit. Je crois que l'expression vient de Virgile, poète romain. Mais en attendant ce temps qui fuit, nous avons la responsabilité d'utiliser correctement, d'utiliser bien ce temps que Dieu nous a donné. La sagesse, c'est que nous rachetons le temps, comme c'est marqué dans Éphésiens, racheter le temps car les jours sont mauvais, et on ne rattrape jamais le temps perdu. On ne rattrape jamais le temps perdu, ça peut être désolant, mais c'est ainsi. Nous pouvons bien sûr nous repentir d'avoir fait des erreurs. Aussi, par voie des conséquences, il faut faire du temps présent quelque chose de positif pour notre vie éternelle. Quelque chose de positif pour notre vie éternelle et aider les autres aussi à y entrer.